Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% foot hebdomadaire, il se doit, et d'ailleurs Patrick est à mes côtés, comme pour la première émission de la semaine dernière. Nous attendons le retour de notre camarade,
oui,
Thierry.
Il y en a qui ont des vacances qui tirent, ouais, jusqu'au début septembre.
Ouais, qui se prolongent.
Voilà,
bon,
qui
apparemment
se prolongent, tant mieux pour eux.
Fait, il viendra nous rendre visite pour la prochaine journée. on va parler du match de Lorient en ce moment-là, quand voilà, il sera présent la semaine prochaine, voilà, je l'espère.
Voilà.
Donc voilà, on va revoir un petit peu le mercato, car il y a une trêve internationale actuellement. Donc l'équipe de France et d'autres équipes qui prépare les matchs de Coupe du Monde, etc. Dont un match hier qui nous a marqué. Il y avait, oui, des matchs assez intéressants à suivre. Mais bon, nous allons parler assez rapidement de nos féminines qui ont entamé leur championnat. Et la première journée, ils ont eu l'occasion de jouer face à pas n'importe quelle équipe. Les Lyonnes, on les appelle à présent, il s'agit donc de l'Olympique de Lyonnais, les Lyonnes, avec un changement total de, voilà, de, au niveau du maillot, etc. Voilà. Bon, elles sont allées jouer dans le groupe Amas Stadium. Pour nos féminines qui découvrent la D1, la Ligue 1 Arkema, c'est quand même pas simple pour démarrer le championnat.
Oui, voilà, c'est une équipe qui, on rappelle, est championne de France pratiquement, oui, sans discontinuer, mm-hmm, depuis 15 ans.
Et voilà.
Et a gagné 6 ou 7 Ligues des Champions féminines.
Absolument.
Qui a été vendue parce que oui, John Textor, l'ancien président de Lyon, celui qu'ils, mm-hmm, ont écarté pour sauver la tête du club, il a tout vendu.
Pas simple. Voilà. À cette dame, là.
Voilà, il a vendu à Madame Michèle Kang, oui, la nouvelle présidente du club masculin.
Masculin et féminin, voilà, en l'occurrence. Et, ça
qui
va,
est une propriétaire américaine qui, mm-hmm, qui a un club en première division américaine de football, oui, féminin. Mm-hmm. Il lui a vendu le club parce que le mec, il a gratté les ronds partout. Il a vendu la salle avec Tony Parker, la salle de la LDLC Arena et tout.
Évidemment. Ouais, ouais,
et
ouais,
il a même vendu le centre d'entraînement pour, voilà,
un affairiste de plus.
Voilà. Et il les a mis quasiment au bord du dépôt, oui, de bilan. Et donc, disons, c'est en féminin, c'est l'équipe la plus forte de France depuis, oui, 15-20 ans.
Ouais.
Et il faut reconnaître
une des meilleures équipes d'Europe, en,
oui,
l'occurrence.
Oui,
qui, c'est vrai,
a trusté plusieurs Ligues des Champions il y a quelques, mmh, années. Maintenant, il est un peu dépassé par les Anglaises et Espagnoles,
oui,
mais se retrouve quand même régulièrement en demi-finale, hein, de Ligue des Champions.
Effectivement.
Voilà. Et donc, les féminines de l'OM ont perdu 3-1.
De manière fort honorable.
Oui,
ayant vu le match, je ne suis pas le seul, Patrick.
Oui.
Évidemment.
Elles ont fait un bon match. Mmh. Elles sont bien battues. On a quand même pu voir des petits problèmes parce qu'on rappelle qu'ils ont changé d'entraîneur, oui, il y a 3 semaines suite à une bagarre entre staff.
On
après
va dire
un match
cela
amical,
comme ça,
voilà,
face à une équipe espagnole, sur le banc de touche espagnol, mmh, il y a eu une grosse rixe, mmh, face,
voilà,
à Gonçalves, qui est l'entraîneur qui a été écarté. Donc, sur le banc de touche, il y avait à ce moment-là, pour l'Olympique de Marseille, Daline Henri Fanny, ouais, le nouveau technicien qui est entraîneur pour l'instant. Je ne sais pas si c'est un intérim ou s'il va garder sa position d'entraîneur, mmh, principal, qui a accompagné nos Olympiennes, qui était évidemment prête à attaquer cette journée, mais contre une des meilleures équipes d'Europe, bon, le résultat 3-1, il me semble-t-il, est tout à fait honorable, et la prestation de cette équipe marseillaise, je l'ai trouvée fort intéressante,
oui,
malgré la domination de l'équipe lyonnaise,
voilà,
des Lyonnes, comme on les
disons
appelle.
Disons que Lyon, ouais, tu as quand même, hormis les Françaises,
oui,
tu as Bacha, mais tu as surtout Wendy Renard en patronne derrière. Et tout,
toujours présente.
Et ouais, l'avançante, c'est quand même Ada Egerberg,
oui,
qui a été la première ballon d'or,
Hein,
féminin,
ouais,
la norvégienne.
Fait, ouais, ouais.
C'est quand même du très très lourd. Donc tu t'es bien comporté.
Il y a eu quelques recrues également pour l'Olympique Lyonnais, pour les Lyonnais, on va les appeler comme ça. Au temps du Paris FC, nous avons récupéré quelques joueuses et du Paris Saint-Germain qui ont signé, donc je crois, Katoto qui a signé à Lyon.
À Lyon, l'internationale française qui est une très belle joueuse. Et l'OM, disons que le problème, c'est que la fameuse bagarre dont tu parlais, Franck, l'entraîneur s'est filé avec les mecs de l'équipe en face. Il y avait deux joueuses qui avaient signé,
voilà,
qui devaient
cette
venir.
Cette joueuse de Chelsea, c'est
oui,
ça.
Oui, la Norvégienne. Voilà. Et au nom difficilement prononçable,
oui.
Mais bon, Tiroz-Dautir, donc, et qui devait signer.
Je te remercie.
Voilà.
J'osais pas dire son nom.
Et Tiroz-Dautir qui joue à Chelsea, donc en Premier League, qui est un gros club anglais.
Oh oui.
Et puis une Américaine qui venait de MLS féminine.
Absolument.
Et les deux, du coup, sont
elles
reparties.
Elles ont été échaudées, on peut le comprendre.
Premier jour où elles sont là, elles n'ont pas commencé l'entraînement. Il y a baston général, donc les filles, elles sont reparties. Ce qui veut dire qu'on a un petit retard en défense, où il nous manque une ou deux personnes.
C'est clair.
Ça devrait se recruter, le mercato le permet avec des jokers et
complètement,
tout.
Voilà.
Mais disons que...
Oh, quelques joueuses qui sont venues du Paris FC.
Oui,
mademoiselle Bourieux, me semble-t-il, qui est attaquante, qui a joué seule en pointe lors de ce match et qui a eu des actions intéressantes. Mais c'est vrai que la densité physique des Lyonnaises est techniquement quelques lacunes qui vont être, je dirais, non pas compliquées à continuer. Tournée, mais en tout cas, je trouve
pour nous, c'était un niveau trop élevé.
Oui,
voilà.
Oui.
Tu peux faire la maille à part. Il y a Paris Saint-Germain qui a une grosse équipe aussi, mais sinon, tu peux faire la maille et tenir face à des équipes plus basses. Mais là, Lyon, c'est comme si tu. En championnat, tu t'amuses à jouer le Barça, le Real ou Liverpool toutes les semaines. Évidemment, tu n'es pas au même niveau.
Au niveau des garçons, nous, on va commencer par le Real. dans pas très très longtemps. Mais pour revenir à nos féminines, donc la prochaine journée, donc la seconde journée, l'OM recevra le HAC le vendredi 19 à 21h. Je ne sais pas encore où sera joué le match, à Marseille, bien évidemment. Nous n'avons pas, je dirais, comme Lyon, jouer sur Groupama Stadium. J'ai trouvé ça quand même un peu impressionnant pour les filles, justement, qui viennent de Ligue 2. Je parle des Marseillaises. Jouer dans un grand stade comme cela, déjà, avec une opposition terrible qui est Lyon, les Lyonnes, je le répète.
Mais c'est vrai que le problème, c'est que... Le stade, enfin, pour avoir vu le match, il y avait 5000 spectateurs, un truc comme ça. Dans un grand stade, on l'a vu l'année passée avec Martigues, qui en Ligue 2 a joué quelques matchs au Vélodrome. 3000 personnes dans le Vélodrome, tu as l'impression d'être... Tiens, il y a des gens qui sont en train de visiter le stade.
Oui,
quoi.
C'est ça. Ouais.
C'est un peu un problème. Il vaut mieux un stade plus petit où tu as 500 000 spectateurs.
Oui.
Parce qu'on n'est pas comme les Anglais ou les Espagnols où tu as des matchs 60 000.
On peut trouver un football féminin avec une affluence extraordinaire qu'on trouvera en France avec énorme difficulté. On ne le voit pas, on ne le verra pas demain. La veille,
un match intéressant, une équipe à affiner pour ses problèmes de recrutement, mais quand même un espoir quand tu vois le niveau de te dire tu as de quoi te maintenir en Ligue 1.
Je n'ai pas de doute à ce sujet-là, malgré l'opposition de ce match-là. J'ai vu un comportement, grand spécialiste du football, même si j'ai quelques regards qui me poussent à essayer de comprendre ce mécanisme. Mais j'ai vu des... une manière de jouer, une implication de ces joueurs, au niveau technique, même si c'était en dessous, il y a un comportement qui était quand même plus qu'honorable et quelques occasions de la profondeur, un manque de justesse sur quelques actions, mais en tout cas une envie d'aller de l'avant et de créer quelque chose.
Donc un match intéressant et on suivra nos féminines.
Absolument.
Comme on suivra au Bagne, en national. qui a obtenu un bon résultat, un match nul à l'extérieur, oui, c'est toujours bien.
Oui, à Bourg-en-Bresse, à Bourg-Perona, ouais, encore un match nul. Voilà. Et la prochaine journée, donc là, il s'agissait de la cinquième. Parmi ces cinq journées, il y a eu une journée où Aubagne Herbel a été exempt. Il y a toujours forcément une équipe qui ne joue pas, qui est exempte dans ce championnat. Voilà, Vicoz Ajaccio.
Voilà, oui, là c'est Ajaccio qui devait être rétrogradé en national, puis qui a déposé le bilan. En parlant de bilan déposé, on rappelle que Martigues a été bloqué, était interdit de toute compétition en équipe senior, parce que l'équipe de Ligue 2 a déposé le bilan, mais le bilan déposé maintenant devrait leur permettre de repartir en régional. Théoriquement, le problème, c'est que la saison est commencée.
La saison est entamée et que tous les groupes sont faits, et ça va être compliqué de rattraper. Alors, il n'est plus question, parce qu'il y a des questions qui disputent le championnat de district, mais là, au niveau associatif, l'association n'est pas encore... je dirais, est encore présente à Martigues, même si le club a périclité et qu'il a déposé le bilan.
Oui, disons que le dépôt de bilan de l'association professionnelle qui gérait la Ligue 2 permet au reste, à la sauce du club, de repartir sans être obéré par les dettes, puisque du coup, ben, les dettes, elles sont perdues.
J'entends.
Et il fallait le dépôt de bilan, il a été long à faire. Et donc, malheureusement, je ne vois pas comment ils arriveront à repartir en régional comme ils espéraient, parce que le championnat est déjà commencé, les calendriers sont faits, les équipes... Les championnats sont pleins, tu ne vas pas rajouter un truc avec deux mois de retard.
Voilà la problématique véritable. Voilà, ils sont confrontés à cela. Bon,
pour nos amis Martégo.
Ah oui.
Mais saluons quand même Aubagne qui a fait un bon match nul, 0-0 à l'extérieur, qui montre que tu es solide. Et c'est tu.
Oui, avec une domination, je dirais, d'Aubagne Herbel sur ce match-là, que nous avons eu la chance de voir. Et voilà, donc en attendant la prochaine journée,
On peut d'ailleurs signaler à nos auditeurs que sur BFM Marseille, la chaîne 30 de la TNT, BFM local, on a le match le vendredi à 19h en direct. Donc c'est intéressant parce que. Se rendre à Aubagne avant les matchs un vendredi à 19h, c'est pas toujours facile quand tu habites
Marseille. Quand il joue à domicile, en l'occurrence, on peut voir les matchs à l'extérieur, à domicile.
À Bourg-Perona, on fait un match correct. Ils auraient pu, avec un peu de chance, le gagner.
Oui, oui.
D'ailleurs, il serait été un peu injuste parce que le match nul est assez logique sur le vu du match.
Oui, on peut.
Mais ils ont eu 2-3 occasions, ils auraient pu mettre un but et tenir. Donc, c'est encourageant pour le maintien qui est l'objectif affirmé.
Voilà, on n'aurait pas crié au scandale si Aubagne et Herbel auraient remporté cette victoire.
Voilà.
Voilà, donc la prochaine journée, évidemment, ça sera donc la sixième à Quevilly. Ouais, c'est bien cela. Aubagne Herbel se déplacera à Quevilly le vendredi 12 à 19h30. Voilà.
Que je ne regarderai pas sur BFM parce que je serai au Vélodrome.
C'est ce que j'allais te dire.
OM Lorient.
Voilà.
Qui donc revenir à notre cher OM.
Oui.
Vendredi soir, on ouvre la quatrième journée avec la réception de Lorient au Vélodrome. Et donc, on va pouvoir découvrir les nouveaux visages et la nouvelle équipe parce que le petit problème qu'on va avoir.
Ah voilà, justement.
C'est que tu as fait une préparation qui était d'ailleurs à mon avis très bonne, qui était très intéressante, avec de très bons matchs.
Je n'en doute pas.
Des victoires.
Oui.
Enfin, moi j'étais au Vélodrome pour Séville et pour Aston Villa.
Voilà, j'ai pu en voir quelques-uns et c'était...
Il y en avait deux d'ailleurs, Gérone et Valence qui étaient sur l'équipe TV, tu peux voir.
Oui, oui.
Et donc tu avais fait des matchs corrects. Et là, tu as changé la moitié de ton équipe. Et effectivement...
Justement.
Ça veut dire que tu repars de zéro. Tu as fait une préparation pour rien. C'est évidemment lié avec l'histoire, avec le problème Rabiot.
Évidemment.
Qui fait que tu as dû dégager deux joueurs. Tu as dû restructurer ton groupe. Tu as eu une crise et que tu te retrouves... Bon, voilà.
Nous en parlions précédemment, mais il est évident qu'il fallait, au-delà de renforcer cette défense qui était quand même un souci majeur dans cette équipe, ça a été fait, comme nous le disions, un peu tard, tardivement, à la fin du mercato, parce que, bon, ben, évidemment, le jeu du mercato, évidemment, une situation financière qui permet justement d'accéder à certains joueurs. Nous ne pouvions pas les avoir trop chers à un moment donné. Et je trouve que ce mercato-là, finalement, ben, je trouve que bon, ben, y a de bonnes surprises que nous allons voir, nous l'espérons, face à Lorient déjà, oui. pour quelques-uns d'eux, et de voir cette nouvelle charnière centrale, voir d'autres défenseurs et d'autres joueurs, justement.
Oui, parce que le problème, c'est que... Alors, on rappelle que le début de saison, il manquait Medina, ouais. qui s'était fait une entorse à l'entraînement. Donc
qui avait
était
déjà signé, qui était déjà présent.
Voilà, qui avait été acheté à Lens, Facundo Medina, et qui a repris l'entraînement, tout comme le Brésilien Pexao,
Pexao également, qui était blessé et qui avait signé avant la fin du mercato, évidemment. Voilà.
Et donc, les deux joueurs importants qui doivent rentrer... Alors, est-ce qu'ils joueront contre Lorient ? C'est peut-être un peu short.
Ouais.
À mon avis, ils seront sur le banc. Mmh. Pexao, en tout cas, sur le banc, il ne sera pas titulaire, c'est sûr.
C'est une certitude.
Mais voilà, mais disons qu'il manquait ces deux éléments et que du coup, ta défense était... ton arrière-gauche n'était pas arrivé. Emerson Palmieri, qui est un joueur qui a un gros CV, hein, international, brésilien, international, italien, champion d'Europe avec l'équipe italienne 2021, vainqueur de la Coupe d'Europe avec Chelsea, voilà. Un joueur qui a un beau passé, qui a 31 ans.
Voilà, une transfuge de West Ham qui nous a rejoint.
Qui nous a rejoint, qui est un joueur intéressant. Surtout, bon
flanc gauche. Voilà.
Bon contre-attaquant. Parce qu'en équipe d'Italie et à Chelsea, il jouait en défense à 3, dont lui jouait piston.
Oui.
Mais c'est un joueur d'expérience à l'italienne, c'est-à-dire qu'il est assez rude. Et...
Ce qui nous fait défaut.
Voilà, ce qui nous fait un peu défaut.
Ouais.
Voilà, donc lui est arrivé, mais il se dit que peut-être Medina jouerait arrière-gauche. Ce qui aurait l'avantage de stabiliser la défense.
Absolument, mais c'est un manque cruel, une stabilité dans cette défense.
Oui.
Et Medina qui a la possibilité de jouer côté gauche, évidemment, comme probablement aussi défenseur gauche, axial.
Oui, il peut jouer également. Axial.
Ouais.
Disons qu'à Lens, il jouait beaucoup dans une défense à 3, axial gauche. Mais il est plutôt axial que latéral, d'ailleurs. Parce que
la polyvalence est importante à ce moment-là. Ouais.
Et alors, c'est vrai qu'on sait que De Zerbi, il aime bien défense à 4 avec un des latérales qui s'insère. C'est ce que fait Paris Saint-Germain avec Hakimi.
Oui,
hein, il s'insère au milieu de terrain. Et tu joues ce que faisait l'année passée Quentin Merlin avec un certain succès. Et tu joues, donc c'était Murillo qui glissait troisième axial, décalais.
C'est ça.
Et là, ça serait plutôt de l'autre côté Murillo qui jouerait piston et Medina qui recadrerait central. Reste que tu as acheté deux super défenseurs parce que.
Il faut le souligner.
Benjamin Pavard, on le connaît,
c'est quand même
costaud, mais qui a été titulaire 5 ans au Bayern Munich, qui était titulaire. À l'Inter Milan, deux finales de Ligue des Champions perdues
avec
l'Inter,
perdues
contre, je ne me rappelle plus qui d'ailleurs, mais une finale gagnée, ça je me rappelle contre qui, c'était PSG, en 2020 avec le Bayern, je veux dire, donc c'est quand même une solide, et c'est très bon, et Naïef Aguerd, qui était une cible de Longoria, de Benatia depuis le début, et qui est un très bon défenseur, excellent joueur de tête, bon relanceur, méchant, un défenseur gaucher.
Absolument, le profil qui nous faisait défaut.
Ah, oui.
Et donc, on parle de ces trois joueurs qui seront, je pense, et je le souhaite de tout cœur vivement, va-t-il y avoir des bouleversements au niveau défensif dans la situation tactique que va...
Donc,
mettre
va
en
hériter
place,
de Zerbi.
De Zerbi,
parce que c'est sûr que là... On rappelle à nos auditeurs que l'OM pistait Joël Ordonès, super joueur, qui fait la défense centrale de l'Équateur avec Pacho, le Parisien.
Oui.
Voilà. et qui est un super joueur, mais Bruges, en fait, n'a pas jamais voulu le vendre. Ils n'ont pas arrêté de monter le prix au dernier moment, de rajouter des trucs. En fait, ils n'ont pas voulu, ils l'ont bloqué. Mmh. Et on était à plus de 40 millions à un moment.
Ça devenait beaucoup.
Et donc, l'OM n'a pas pu le faire. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es rabattu au dernier moment, le dernier jour, sur Aguerd et Pavard, qui sont loin d'être les seconds choix.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Le problème étant que tu as fait toute la préparation avec un capitaine qui s'appelle Leonardo Balerdi, qui est un bon joueur, même s'il a raté ses trois premiers matchs. Hein. Même contre Paris FC, qu'on a gagné au Vélodrome, il n'a pas été bon, puisque les deux buts, il est impliqué sur les deux. Enfin, il n'est pas... Oui. Sur le second, le premier... C'est pas lui qui ferme pas et Kebal peut rentrer et frapper. Mais le second, il est pris dans son dos.
Comme il est vrai qu'il n'était pas dans ses petits souliers en ce début de saison.
Comme il a été pris à Rennes sur le but de Blas, à la 90 plus 1. Et voilà, donc il n'était pas particulièrement bon, mais c'est ton capitaine. Mmh. Et c'est un joueur, quand il est entouré de bons, on se rappelle avec Mbemba il y a 2 ans.
Absolument.
Il était très solide. Mais voilà.
Et c'est ça, finalement, d'être entouré de joueurs de qualité qui te permettent
d'expérience
de rester constant dans ta progression. Et parce qu'il a progressé ces dernières années, Balerdi, même si, évidemment, qu'il a des lacunes et se retrouve un peu, évidemment. Alors, va-t-on parler de changement en défense ou le replacer peut-être, on en avait parlé précédemment, notre six, positionnement 6, une sorte de numéro 6, hein, comme on l'entendait avant, de récupérateur, de milieu terrain défensif, récupérateur. Mmh. Ouais,
il faudra voir.
Parce que la défense va être quand même.
Parce
je
que
pense,
rappelons quand même qu'il est international argentin. Oui, oui, oui. Alors il est remplaçant parce qu'il est titulaire, c'est Otamendi qui est un monstre, champion du monde, et Romero qui est champion du monde aussi. C'est la charnière qui a gagné la Coupe du Monde en 2022. Ouais. Otamendi, bon, mais il a 37 ans. Hein. Mais enfin, un joueur de Benfica qui est monstrueux, qui met plus de coups dans l'adversaire que dans le ballon. Mais ça, c'est...
Nous le connaissons,
C'est un Argentin.
Mais voilà.
Et c'est quand même le remplaçant, donc c'est quand même pas... Bon, c'est quand même les champions du monde, donc c'est une belle équipe, un bon joueur.
Il reste présent dans
mais
ce groupe.
C'est vrai que dans une équipe où il était mal protégé, la défense, et où il était avec un jeune équipier qui débutait et qui connaissait peu... C'est le jeune anglais Egan Riley, c'était pas évident.
C'était pas un cadeau pour lui, justement, mais de le lancer comme cela.
Voilà, la question étant, c'est pour ça que tout à l'heure je disais on repart de zéro.
Oui.
Tu as pris Pavard et Aguerd, je vois ni l'un ni l'autre en remplaçant, mais c'est des joueurs de très haut niveau.
Donc on va jouer à 4 ou à 3, à 4 probablement.
Ah, oui.
Donc évidemment, je ne vois pas comment Balerdi pourrait trouver sa place dans cet axe défensif.
Ouais. Voilà, ou alors après, on va avoir beaucoup de matchs, donc tu pourras faire retourner. D'où la question qui s'était posée de le remonter en 6.
Oui.
Mais il a joué en jeune, en équipe de jeunes. Hein. Mais
c'est-à-dire qu'étant donné qu'il reste capitaine, lui retirer son brassard serait quand même un préjudice pour l'équipe que pour lui.
Voilà, ça poserait un problème de vestiaire parce qu'il est très respecté.
Oui.
Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Le problème, c'est que tu ne vas pas mettre un Pavard ou un Aguerre, tu ne vas pas les mettre. Et à droite, arrière-droite, un Murillo qui fait ses matchs.
Oh que oui.
Donc tu peux décaler une fois Pavard, il rendra service, il jouera à droite, mais il n'aime pas.
On l'avait bien compris, en équipe de France.
En équipe de France, il ne veut pas y aller.
Comme à l'Inter de Milan, une débarcation qui laisse cette position.
Donc c'est un peu compliqué, il va falloir que De Zerbi trouve un équilibre assez vite. Parce que là, le vendredi, on reçoit Lorient. Tout en étant respectueux de nos camarades de l'Orienté, c'est sympa et tout. Le mardi d'après, on va au Real Madrid en Ligue des Champions.
Justement.
On commence tranquille, le Real Madrid.
On va dire ça comme ça.
Le dimanche 21 septembre, le dimanche d'après, il y a une certaine Paris Saint-Germain qui vient au Vélodrome.
Me semble-t-il, alors, c'est ça, le dimanche 21 septembre.
Sans Ousmane Dembélé et sans Désiré Doué.
Je voulais le souligner, ils ont eu quelques petits soucis en équipe nationale, mais bon.
Mais bon.
Ce sont des choses qui arrivent, c'est le football.
Après, puis en plus, je veux dire, c'est. Paris, c'est une équipe, ils peuvent jouer sans.
Doué, ça va pas mieux, tu me diras.
Oui, oui. Non, mais après, quand les remplaçants s'appellent Gonzalo Ramos, Barcola, puisque Kvaratskhelia prend le côté gauche, c'est Barcola, Gonzalo Ramos.
Abondance de bons joueurs ne nuit pas forcément à une équipe.
T'es pas non plus à la rue. Quoi. Voilà, quoi.
Voilà. On va pas les plaindre.
On va pas, voilà, exactement. quoi. Mais disons que là, ça va être compliqué, donc il va falloir assez vite que l'équipe elle, se trouve.
Oh que oui.
Parce qu'on connaît Marseille, ça fait fort longtemps qu'on connaît, et on sait que quelques mauvais résultats, ça déstabilise énormément, ça fait énormément parler. Et que
la patience n'est pas forcément le mot d'ordre au niveau des supporters comme de l'environnement du club.
C'est pas la qualité première, la patience. Voilà. On l'a vu avec l'histoire Rabiot qui est assez... je veux dire,
qui reste toujours d'actualité dans les commentaires des uns et des autres.
Ça a fait l'ouverture de toutes les émissions de sport de l'équipe et même d'autres chaînes de Radio Monte Carlo, l'émission de Rotten et tout. Ils parlaient que de ça tous les jours. On aurait dit qu'il y avait une guerre nucléaire.
Ils ne se sont pas privés de tous les commentaires possibles et inimaginables.
De balancer de l'huile sur le feu. Il n'y a pas que la mère d'Adrien Rabiot qui a mis la merde. Voilà, par des déclarations débiles. Mais du coup, le joueur est parti. C'est un moindre mal. De toute façon, tu ne pouvais pas...
C'est fait.
Mais tu ne pouvais pas passer autrement.
Ben, évidemment. Moi,
je sais qu'on a eu des échos puisque... Pas mal de gens à Rennes qui étaient là, qui étaient ont vu et ont raconté. Le mec qui a moché l'entraîneur, qui a moché le directeur sportif, qui refuse de se calmer, qui refuse de s'excuser devant le groupe et tout.
En même temps, ce n'est pas propre juste à ce match-là. Je pense qu'il y avait des signes avant-coureurs de la préparation.
Il devait y avoir un problème parce qu'il y avait déjà eu. Parce que c'était un peu... Parce qu'on rappelle que l'incident, il part du coup de gueule de Rouli. Alors Rouli, c'est le gardien, il fait des miracles, il te sauve 3-4 fois sur des contres, et il en prend un à la 90+1, donc le mec, il a les boules, parce que sa défense l'a abandonné, le mec arrive seul, il...
Une réaction d'humeur tout à fait naturelle.
Il engueule tout le monde en disant, si on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, qui est une évidence. Et donc, il pousse un coup de gueule. Mais d'après ce qu'on sait... une fois que l'autre a mal réagi, l'anglais qui est parti à Bologne, Jonathan Rowe, qui au demeurant, tout le monde te dit, est un gentil garçon. Une fois qu'il a mal pris la remarque, qu'il a dit tu ne m'engueules pas, l'autre il s'est arrêté.
Oui.
Comme Højbjerg et Kondogbia qui faisaient la morale.
Justement, qui étaient présents avec Rouli, pour.
Et qui étaient là pour dire, les gars, on a raté et tout.
Mais c'est dans un second épisode que l'altercation a démarré
avec Rabiot qui, lui, est rentré dedans. Et en fait, l'incident, ça s'est calmé très vite. Il a eu lieu demi-heure après, quand les joueurs sont partis dans le car.
Voilà.
Que Rowe est revenu voir parce que Daryl Bacola avait fait un petit malaise, peut-être dû au stress et à la tension dans le vestiaire.
Il est vrai que cela, justement, était plus que problématique de voir justement un coéquipier faire un malaise.
Voilà, un jeune qui n'a pas 18 ans, il les a, je crois, au mois d'octobre. Voilà, et donc il est revenu prendre des nouvelles et Rabiot, qui était dans le vestiaire, a voulu le virer du vestiaire. C'est un peu le véritable incident problématique.
C'est à ce moment-là ça a commencé à dégénérer véritablement.
Et ça a dégénéré quand le joueur n'a pas voulu s'excuser le lundi, parce que suspendu d'entraînement provisoirement pendant 2 jours, tu t'excuses, tu fais une vidéo sur les réseaux
sociaux.
Nous
pensions à ce moment-là que ça allait se tarir et ça allait se calmer.
D'ailleurs, ce que disaient tous les spécialistes, tous les anciens joueurs sur les chaînes de radio, de télé, c'est que ça s'est passé dans tous les clubs, dans tous les vestiaires.
Bien évidemment.
Enfin, voilà, quoi.
À revenir dessus.
Et le problème, c'est que lui n'a pas voulu s'excuser et que sa mère est allée faire les déclarations à RTL, à Philippe Samfouche de RTL, en traitant Longoria d'incapable, de nul, de manipulateur, Benatia pareil, l'entraîneur de connard, enfin voilà.
Quelle position justement avoir au niveau du staff dirigeant à ce moment-là.
Voilà. Et puis elle a fait un truc qui est difficilement acceptable. Elle a dit, on engueule mon fils parce qu'il s'est engueulé avec un équipier, mais vous avez un joueur qui a frappé sa femme et qui est titulaire dans votre équipe. Alors l'autre, qui t'a rien demandé, il n'a pas dû épaissir beaucoup. Il y a pas mal de joueurs que ça a dû choquer. Et tu ne peux pas passer à côté de dire, bon les gars, excusez-moi, j'ai déconné, au moins l'interne, et d'aller voir ton président et ton... ce qu'a dit De Zerbi, d'ailleurs.
Oui, avant que ça explose sur ce match-là, il y avait évidemment
des signes avant-coureurs. Oui, il y avait sûrement des problèmes, parce que...
Déjà, le fait qu'il n'ait pas pensé à re-signer, justement, à prolonger son contrat, déjà.
Alors ça, ce qu'on ne sait pas trop, parce qu'on a essayé d'avoir un peu des...
Ouais.
Discutant avec des gens qui sont autour...
Ouais. Autorisé à penser dans les milieux autorisés.
Lui n'était pas hostile. La fameuse histoire dont t'as parlé, Longoria, que quand il a appelé la mère Rabiot, elle lui a dit, façon, discuter, il fait trop chaud, enfin, un truc qu'il a... voilà.
Ouais.
En fait, c'était Rabiot qui, aux Pays-Bas, lors du stage de préparation,
voilà,
discutant
d'août,
le soir avec Benatia et Longoria, il a dit, faudra qu'on se voit, oui, pour discuter d'une éventuelle...
Justement, c'est le moment de parler d'une prolongation de contrat.
Tu lui proposais 150 000 euros de plus par mois, dont le mec, il écoute. Et la mère avait peut-être pas envie... Toujours est-il qu'elle ne s'est pas pointée au rendez-vous parce qu'il faisait trop chaud.
Ouais, une vraie maman, une vraie agente de joueur.
Quand il y a eu un incident, moi, ce qu'on m'a dit, enfin, des gens qui sont à la commanderie, quoi, qui bossent, c'est que les agents de Jonathan Rowe, ils ont téléphoné à 4h du matin, ils ont envoyé un message, il faut qu'on se parle et tout, ils ont calmé.
Oui, là on revient à cela, il était mieux accompagné au niveau...
Le gars, il est venu, il a appelé De Zerbi, il a appelé Benatia, il a appelé Longoria le samedi dimanche. Le lundi, il est venu au vestiaire s'excuser avec les mecs avant d'aller s'entraîner ailleurs puisqu'il était interdit d'entraînement.
Pas oublier que c'est son avenir professionnel qui était en jeu.
Et en partant, il est parti le jour du match contre PFC alors qu'il avait signé à Bologne.
Ouais.
Il a envoyé des messages, je regarde le match, allez l'OM, merci aux supporters. Merci. Ils ont fait le boulot.
Oui, oui.
Eux, c'est les agents, ils ont fait le boulot, ils ont calmé. Le mec s'est excusé publiquement, il a fait des stories Instagram pour dire c'est bon, j'ai déconné, excusez-moi, bonne chance, allez l'OM. Et l'autre, il a refusé de dire le mot. Et d'ailleurs, il a toujours rien dit.
C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'il s'est abstenu de tout commentaire, je dirais. On peut parler d'excuses, etc. On ne va pas revenir remuer
Oui, on ne lui demandait pas de se fouetter sur la pelouse du stade devant 65 000 personnes. On lui demandait de dire « Excusez-moi, à mon âge, avec mon expérience, je n'aurais pas dû déraper. » Et ma mère, elle a un peu dérapé, je m'excuse pour ce qu'elle a dit.
Voilà.
Tu en restais là et...
simples excuses
n'ont
pas besoin de plus que cela. Cela n'empêchait pas peut-être un départ de sa part, c'est le cas de le dire. Et en l'occurrence, il s'est pas mal débrouillé sur sa négociation de contrat avec l'OM. En partant, justement, comme cela, il a bénéficié d'un pactole intéressant de 30% des émoluments du transfert.
Plus la prime à la signature,
évidemment.
Plus la commission d'agent pour sa mère.
Nonobstant le fait qu'il ne disputera pas de Ligue des Champions cette année, mais ça, c'est tant pis pour lui. Maintenant, on va s'occuper de nous.
Le Milan ne la joue pas. C'est quand même un truc qui nous pénalise très lourdement le club, parce que tu n'avais pas prévu de le laisser. Contrairement à des trucs qui ont pu être dits sur certaines radios, tu n'avais absolument pas prévu de le faire partir.
C'était
évident. Même, d'ailleurs...
Notre joueur majeur, notre joueur clé.
On regardait sur les sites du club.
Ouais.
Tu prends toutes les publicités pour les maillots, acheter les maillots pour les matchs et tout... Rabiot, il est dans toutes les photos.
Absolument.
Tu as Rabiot, Balerdi, Aubameyang, je veux dire, les trois, avec Højbjerg, les quatre, Gouiri, c'est eux. Mais lui, il y est sur toutes. C'est celui que tu avais prévu comme la tête de pont. Et tu te retrouves à 8 jours de la fin du mercato, tu récupères 10 millions, dont effectivement un tiers vont à la famille Rabiot. Et c'est pas avec 7 millions que tu vas acheter un mec pour le remplacer à 8 jours de la fin du mercato.
On va parler de Benatia et de l'environnement technique qui sont bien débrouillés en tout cas pour les recrues.
En catastrophe, tu t'es fait prêter par Brighton un international danois qui a un nom irlandais d'ailleurs, qui est danois.
Qui est danois.
Son nom ne le démontre pas, mais il est danois.
D'ailleurs, il aurait joué quelques minutes
Il est rentré 10 minutes hier avec le Danemark.
Avec Højbjerg qui a été buteur à deux reprises.
En Grèce, il a été passeur.
Ça, c'était passeur.
Højbjerg a été deux fois passeur décisif hier soir. Et bon, O'Reilly est rentré dernier quart d'heure à 3-0. Ouais,
comme son nom ne l'indique pas, c'est une recrue qui est danoise, voilà, de l'Olympique de Marseille.
Et qui est prêté, ouais, mais qui est un garçon qu'on dit talentueux. Mmh. Au Celtic Glasgow, mais le championnat écossais, il y a deux équipes, hein, le Celtic et les Rangers. Hein.
Mmh. Ah oui, oui, il n'y en a pas 36 000.
Voilà, le reste, c'est assez british, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, on le connaît peu. On le dit, bon technicien, ouais, bonjour, il est quand même international danois.
Ben voilà.
Voilà. Mais c'est lui qui, théoriquement, devrait remplacer. Donc, oui, c'est quand même un peu...
Donc, Matt O'Reilly, voilà, nouvelle recrue
un
de
un peu un garçon qui va devoir s'adapter. Oui. Alors, il n'était pas un échec. À Brighton, il jouait, mais oui, il n'était pas titulaire.
Oui, parce que là, il jouait à Brighton l'année précédente.
La saison d'avant, il est prêté toute l'année. Mm-hmm. Et donc, on va voir ce que ça donne. On a pris un autre Belge qui était à Leipzig en Allemagne, oui, qui est prêté lui aussi avec option d'achat, mm-hmm, au milieu de terrain plus défensif. Il s'appelle Vermaren.
Vermaren, c'est voilà, ça. Ouais,
21 ans, international espoir,
ouais,
belge.
Oui, qui est un peu plus défensif comme un milieu.
Oui,
ouais,
oui, 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 mm-hmm,
on va en avoir besoin des milieux.
Un 6-8. Oui. Parce qu'on a parlé des problèmes de défense sur les trois premières journées, mais c'est aussi parce que ton milieu protège mal.
Justement, voilà. Tout est relatif.
Voilà, les mecs, ils arrivent en vague et ils ne protègent pas, quoi. Et donc, mm-hmm, ce Belge qu'on connaît peu, bon, il est parti très jeune de Belgique où il flambait, mais il a joué un an à l'Atlético Madrid.
Oui,
et
c'est ça, à 18 ans, c'était un peu jeune, voilà, me semble-t-il. Et après,
voilà, ça a été... Mais enfin, il a fait des matchs à l'Atlético, mm-hmm, Madrid. Donc, normalement, il devrait être combatif, puisque l'Atlético, c'est un peu la marque
de fabrique.
L'école
Simeone, ouais.
Voilà. Mais on le connaît peu, international, ouais, espoir belge. J'avoue que moi, je me rappelle l'avoir vu une fois
il
avec
échappé,
l'Atlético.
Ce joueur.
Mais
ouais,
bon, mm-hmm, voilà. Donc, tu as ces deux gars qui arrivent. Ouais. Qui te remplace, alors il y en a un des deux qui va remplacer, Vermaren va plutôt remplacer Rongier.
Voilà, c'est parce que Rongier va nous faire défaut également, ah, hein, en milieu défensif. Ouais.
Parce qu'il était question de reprendre Bennacer, mais c'est un problème de santé, Bennacer.
C'est-à-dire trop fragile.
Oui, là, Bennacer, il n'a pas joué avec l'équipe d'Algérie, ouais, parce qu'il est blessé. Mm-hmm. Donc c'est compliqué. Et un garçon qui se blesse souvent. Il y a déjà Kondogbia qui est souvent blessé.
C'est assez récurrent, Kondogbia, voilà. Benacer, coutumier du fait. Ouais.
Sur quatre joueurs, mmh, il y en a deux qui sont blessés très régulièrement. C'est un problème dont on a pris ce jeune. Le jeune danois d'origine, oui, irlandaise, mmh, qu'on connaît peu. Ouais. Par contre, un qu'on connaît, c'est Ahmed Traoré Junior.
Oui.
Le jeune international ivoirien.
Transfuge de la Auxerre.
Voilà, qui était prêté à Auxerre, qui vient de Bournemouth, ouais, en Angleterre.
Bournemouth, ouais.
Et en plus, pas cher, puisqu'il est, mm-hmm, prêté avec une option d'achat.
Avec option d'achat qui reste quand même assez.
7 millions et demi, c'est, ouais, c'est pas énorme,
cher, ouais,
voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc, qui par contre connaît la Ligue 1, ouais, et a flambé l'année, mm-hmm, passée. Je crois qu'il a 9 ou 10 buts et une dizaine de passes décisives.
Et d'ailleurs, nous l'avons fait jouer dès son arrivée, 22
oui,
jours
oui,
après.
Contre. À Lyon, avait fait un match correct. Oui, il a été peut-être le meilleur attaquant.
Oui, oui.
Après, Aubameyang, il n'a pas eu un ballon propre.
Sachant que Greenwood et Aubameyang étaient transparents sur ce match-là.
Aubame, c'est qu'il n'a pas eu un ballon.
Oui, c'est
et
surtout cela.
C'était Greenwood des mauvais jours.
Oui, voilà.
Voilà, tout ce qu'il tente, il rate et il a
ça
pas
ça peut
eu,
arriver,
il a
malheureusement.
Pas cadré une frappe.
Pour que ça se reproduise
oui,
pas d'ici
voilà.
tôt.
Il ne faut pas que ça se reproduise ouais. en Coupe d'Europe. Mais
par
bon.
Exemple.
Voilà. Donc, on a quand même l'ailier gauche, Pexao, qui ouais. va revenir. Mmh. Je pense qu'il va peut-être jouer un quart d'heure contre Lorient, si le résultat
ouais,
le permet.
Tu penses qu'il intégrera déjà face
à
Lorient ?
Il a repris l'entraînement fin de semaine dernière.
Ouais.
Mais il revient de plus d'un mois d'arrêt hein, pour une blessure musculaire.
C'est pour cela, parce qu'il y a une multiplication de matchs qui vont s'enchaîner.
Et
là.
Donc là, je ne le vois pas jouer contre Lorient titulaire. Par contre, sur le banc, rentrer 20 minutes pour prendre l'air, pour prendre l'ambiance, si le score le permet. Si tu mènes 3-0, oui. tu le fais rentrer.
Il est vrai que sur le match précédent, on avait fait... Oh. De Zerbi avait fait l'impasse sur notre international algérien Gouiri,
oui.
voilà, qui est joueur de qualité mais un peu fantasque, qui a eu quelques petits soucis là, sur ses derniers matchs, mais enfin, il va bien falloir exploiter son talent, il n'en est pas dépourvu. Donc peut-être nous allons le voir ou le revoir face à Lorient.
Oui, peut-être ailier gauche, il peut jouer ailier gauche.
Il a déjà essayé. Ouais.
Sachant que techniquement c'est un fin joueur.
Il est très habile.
Si tu arrives à le faire s'entendre avec Aubameyang,
voilà, c'est ça.
Un en neuf en pointe et l'autre derrière qui le lance, qui suit les seconds ballons.
Il y a eu des prémices intéressantes, mais ça, les finitions n'étaient pas présentes.
Voilà, ça peut être intéressant. Ouais. Contre Paris FC, tu sens que les deux joueurs, c'est des bons techniciens qui parlent le même langage.
Cela va de soi, voilà.
Mais Guiri, c'est vrai que c'est un joueur qui est souvent avec des hauts et des bas, capable de très beaux exploits et puis de disparaître un peu comme Greenwood. Hein, c'est des joueurs talentueux, mais...
Une tantinée fantasque.
Voilà, une tantinée fantasque, voilà. Alors, quand tu t'appelles Vinicius ou que tu t'appelles Mbappé, si tu es fantasque et que tu joues par à coup, ça va. Quand,
on peut fermer les yeux.
On ferme les yeux. Guiri, j'aime bien Amine Guiri, mais... Oui. C'est un peu plus difficile.
Oui, en effet.
Parce que c'est un peu moins, voilà. Mais bon, on a donc Ahmed Traoré Junior ou Pexao qui vont débuter dans l'équipe, tiens, ton ailier gauche.
D'accord.
Au milieu, tiens, le 10, O'Reilly ou peut-être le jeune
et
Nadir.
Et Vermaelen aussi. Et Nadir,
qui vont débuter.
Oui. Mais Nadir a été intéressant sur sa dernière prestation. Oui, il a été sorti par rapport justement à l'expulsion, dont on a été sujet.
Ouais. Oui, Egan Reilly qui s'est fait expulser à Lyon. Mmh. Donc il a dû sortir à la 29e. Ouais. Mais pour faire entrer un défenseur.
Oui.
Mais donc disons que c'est quand même un garçon qui a du talent, qui a des qualités. Ça serait intéressant. Alors après,
progression,
tu vas pas le mettre titulaire à Madrid, à Bernabéu, en lui disant qu'on dirige le jeu.
Non.
Trop jeune. Mais par contre, c'est un garçon qui a des qualités. Qui a des qualités techniques.
Absolument.
Il tente, il ose, il fait des trucs. Mais il faut savoir qu'il aura des hauts, des bas, qu'il va devoir travailler, apprendre. Mais c'est un joueur intéressant.
C'est son rôle, justement, en constante progression également, qui a la possibilité, je dirais, d'acquérir
Et là, si tu veux, c'est le problème, c'est que tu as plein de nouveaux. Donc, O'Reilly le 10, puisque Rabiot est parti. Ou alors même Nadir, si tu le mets, mais ce n'était pas prévu. L'ailier gauche, que ce soit Ahmed Traoré ou Pexao, qui reviennent de blessure, qui débutent. Tu auras au milieu un joueur, parce que tu ne vas pas faire tout avec Højbjerg-Gomez.
Eh oui.
Tu ne peux pas, il faut tourner. Tu auras donc Vermaren qui va jouer, ou un peu Kondogbia. Mm-hmm. Et en défense, tu te retrouves
n'est pas blessé,
avec trois mecs qui vont débarquer, qui n'ont jamais joué ensemble.
Voilà.
Puisque Pavard, il a signé, il était avec l'équipe de France à Clairefontaine. Il n'a pas encore mis un pied à Marseille. Il va mettre un pied de main il repartira de l'équipe de France.
Oui, oui.
Et Naïef Aguerd, c'est pareil, puisqu'il est parti avec le Maroc en équipe nationale.
Ouais, il était en équipe nationale
donc,
avec le Maroc, en effet.
Les mecs n'ont jamais joué ensemble, ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leurs partenaires, ils n'ont aucun repère. Même si les tactiques, ça va, c'est des vieux routiers.
On va dire que les joueurs de talent assimilent rapidement ces éléments tactiques.
Et puis, c'est
qu'ils apprennent à jouer ensemble.
Ces deux garçons qui ont 29 ans, qui ont plus de 10 ans de carrière pro, qui sont internationaux. Naïef Aguerd, il était titulaire à l'équipe du Maroc, demi-finaliste à la Coupe du Monde en 2022. Là, il joue, il est international marocain, je ne sais plus combien, 50-60 sélections, c'est du solide. Ils viennent de Première Ligue où il était titulaire à West Ham, donc je veux dire, le mec, il ne va pas trembler au Vélodrome contre Lorient, ça c'est sûr. Et Pavard, je n'en parle pas. Par contre, tu ne te connais pas.
Voilà,
et tu ne connais pas tes latéraux, tu ne connais pas ton gardien, tu ne connais pas ton milieu devant.
Que cette cohésion, justement, exister, il va falloir qu'ils multiplient les matchs et qu'ils apprennent, justement, à jouer ensemble.
Et par rapport à ce que je disais sur l'histoire Rabiot, les dirigeants ne sont pas stupides. Tu fais une préparation, c'est pour trouver des repères et des affinités. Tu ne te permets pas de tout changer le dernier jour. C'est pas ton intérêt, parce que là, tu te retrouves avec des mecs. Parce que là, si tu pars sur une défense Murillo, Pavard, Aguerd, Medina, les quatre ne se connaissent pas. Même il y en a, ils ne se sont jamais vus, puisque Pavard, il n'a jamais vu Medina, il n'a jamais vu Murillo, il n'a jamais joué contre eux, il ne les connaît pas.
Enfin, il n'a même jamais vu la commanderie.
Voilà, il n'a même jamais vu la commanderie. Et tu vas devoir trouver, alors contre Lorient, ça devrait passer. Tu vas à Madrid et tu vas recevoir le PSG et après tu vas à Strasbourg.
Comme finalise cette préparation sur un match de championnat. Quoi.
Voilà, tu vas devoir. Et ça, c'est compliqué.
Ouais.
Parce que j'écoutais des commentaires débiles sur, sur RMC.
On en entend des vertes et des pas mûres.
Non, mais qui te dit Paris, les mecs, ils n'ont pas eu de préparation, ils ont eu des vacances, ils n'ont qu'une semaine. Oui, mais l'année passée, ils jouaient ensemble.
C'est ce que j'allais dire, tout simplement.
Dans les automatismes, ils les ont de l'année dernière. L'entraîneur, ils le connaissent de l'année dernière. Les joueurs, ils se connaissent. Tes mecs, ils arrivent, quoi. Et on sait qu'une défense... Ouais. On l'a vu hier soir avec l'Italie contre, contre Israël.
Pétard. Quel match.
Comment les mecs, ils prennent une équipe italienne qui prend 4 buts comme ça, mais je n'ai jamais vu ça. Quoi.
Assez improbable.
Ah ouais, c'est totalement improbable. Et c'est tout simplement que tu sens que les mecs n'ont pas d'automatisme, pas de repères. Enfin, ils ne sont pas en confiance. Enfin, tu sens qu'il y a un problème.
Je pensais que Gattuso allait leur apporter, le sélectionneur de la squadre.
Oui, il a quand même amené la grinta. Parce que quand ils se font égaliser, il faut avoir le mental
revenir,
de revenir. Voilà. Mais
là, on parle donc des matchs d'hier,
des matchs
qualification du monde,
Israël et Italie.
Ouais.
Et mais ça veut dire, il a quand même amené ça. Ils n'ont pas baissé la tête.
Oui.
Mais enfin, tu sens quand même une équipe en crise.
Oh,
et là,
oui.
Ton problème à l'OM va être que tu repars, tu es le premier jour de la préparation.
C'est ça.
Le match de Lorient, ça sera ton premier match de préparation.
Totalement.
Sans même avoir eu, tu auras eu jeudi d'entraînement, parce que mercredi, tu arrives des équipes internationales. Hein. Murillo, il rentre le Panama.
Oui.
Balerdi, Rulli, ils reviennent
d'Argentine. Du Sud, d'Argentine,
Donc les mecs, ils reviennent. Tu te bonjour, bonsoir. C'est pour ça qu'il est très possible, à mon avis. Qu'il laisse Balerdi contre Lorient. Parce qu'au moins, il connaît les gars. Quoi. Il connaît, il a ses repères, il connaît le stade. Parce qu'un stade, malgré tout...
Et puis, pas le changer de registre défensif et le mettre au milieu de terrain.
Voilà,
le garder dans sa position habituelle.
Tu le mets avec Pavard ou avec Aguerd, suivant la forme.
Ouais.
Et tu mets Medina à gauche parce qu'ils se connaissent déjà de l'équipe d'Argentine.
Absolument.
Mais voilà, donc tu vas essayer de mettre en sécurité parce que
je pense aussi,
repartir d'entrée en le mettant lui sur le banc, c'est le capitaine.
Non,
les deux autres qui auront eu un entraînement en commun, en charnière, il ne faudrait pas que contre Lorient, tu prennes un but sur une erreur défensive et tu sois amené au Vélodrome. Parce que je pense
ça
que le public n'est pas stupide et que les assos de supporters des virages soutiendraient l'équipe.
Oui, bien sûr.
Mais il faut faire attention, il ne faut pas non plus jouer avec le feu. Donc, on ne sait pas ce que va faire De Zerbi.
Pas de bouleversement total, mais des incorporations de différents joueurs qui vont se faire par la force des choses par rapport aux besoins essentiels de l'équipe mais il ne va pas falloir tout chambouler sur un simple changement tactique
Il va falloir à ce moment là il va falloir réfléchir, être tactique, il faut pas parce que sur les réseaux sociaux on voit des trucs, tu changes tout, lui tu le vires, lui machin.
Ah oui, c'est facile et sur le papier de faire de belles équipes.
Je regardais sur l'équipe un journaliste qui est assez nouveau d'ailleurs sur l'équipe Villas là, Nicolas, et qui vient d'arriver et qui expliquait De Zerbi finit pas l'année, il est viré avant Noël, les trucs classiques.
C'est d'actualité comme comme rumeur insistante.
Il va falloir faire attention parce que ce qu'il va devoir faire va être compliqué. Il va falloir qu'il trouve des équilibres.
Il est vrai.
Il va falloir qu'il teste parce qu'il va falloir qu'il voit les associations. Une charnière centrale, si l'équipe elle a merdé en début de saison, c'est parce que Egan Riley et Balerdi ne se connaissent pas. Riley, il est droitier, il joue qu'à droite. En Angleterre, il joue à droite. On l'a laissé à droite et on a mis Balerdi à gauche. Qui est droitier et qui aime pas trop jouer à gauche.
On s'en est rendu compte.
Voilà, donc il est pas c'est des
pas très à l'aise dans
c'est des repères
position,
différents à droite ou à gauche et tout. Alors que là, Pavard, c'est un droitier, ouais. Et Aguerd, c'est un gaucher, habitué à jouer un à droite, l'autre à gauche. Là, tu n'as pas de...
Voilà. Voilà. Mais... Pour Pavard, on va parler de position axiale, voilà. Là où il accède, voilà. Et qu'il préfère,
et
en tout cas.
Et qu'il préfère, et sur laquelle il veut jouer. Ouais. Quand tu es prêt à perdre ta place en équipe de France, oh, oui. Parce que tu ne veux pas accepter le dépanner arrière droit, c'est que tu n'as pas mis le joint arrière droit.
Voilà. C'est assez.
C'est assez, voilà. Ouais. Parce que, hein, disons que sinon, Deschamps, il ne s'embêterait pas. Hein. Oh, tu as Koundé, tu n'as pas Barre. Hein. Oui. Tes postes sont bouclés. Oui. Donc, il va falloir trouver les équilibres, il va falloir parler avec les mecs.
Justement, j'ose espérer, Patrick, que des joueurs d'expérience intelligents au demeurant fins techniquement et tactiquement, qui connaissent le football sur le bout des doigts, des pieds, j'entends bien, ils vont assez rapidement. C'est mon cœur qui parle. Se connaître, apprendre à jouer ensemble et voilà.
Après,
aller vers un même but.
L'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que Aguerd, quand il a été contacté par Benassia en juin, quand il y a eu les premiers contacts, mais West Ham hésitait à le lâcher, ils n'avaient pas le remplaçant, enfin, ça a été un cinéma.
Ouais, ça a duré un petit moment.
Oui, ça a duré. Là, je lisais ce matin dans l'équipe d'ailleurs que Liverpool voulait acheter Mark Guéhi, le défenseur international anglais de Crystal Palace. Et que Crystal Palace l'a pas lâché le dernier jour. Le mec, il avait déjà le contrat en main.
Pourtant, ils ne sont pas gênés au niveau moyen.
Les Anglais, mais parce qu'ils n'avaient pas trouvé le remplaçant. Ouais. Ils n'avaient pas pu avoir le remplaçant qu'ils voulaient. Voilà. Donc, ils ne l'ont pas lâché au dernier moment. Il y a eu des trucs comme ça. Donc, si tu veux, Aguerd, lui, il voulait venir. On sait qu'il voulait venir. Et Pavard, on lui a proposé en peine à faire Rabiot et tout. Il a dit oui. Et il a l'air d'avoir envie. Il voulait partir de l'Inter. Donc le mec, il sait où il vient et il sait ce qu'il veut.
Oui, ils étaient déjà prêts à recruter des joueurs.
C'est un gros avantage, c'est pas le mec que tu as pris à l'arrache parce qu'il était au chômage. Quoi. C'est le mec qui avait envie de venir. Et De Zerbi, il est conné, il a validé le transfert. À part qu'il connaît pas les mecs, il a pas joué, il les a pas entraînés. Donc il va falloir un temps d'adaptation. Et le temps, tu ne l'auras pas parce que là, on a le calendrier.
On entre dans le vif du sujet. Là.
Tu pars sur les trucs avec un match tous les 3 jours. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de travailler les automatismes et les repères au niveau défensif. On sait que quand tu as des matchs tous les 3-4 jours avec la Ligue des Champions, tu t'entraînes quasiment plus. Tu fais de la récup. Et tu fais un jour de préparation du match à venir en visionnant des vidéos de l'équipe adverse, comment ils jouent, tactiquement, comment on va faire. C'est se plaigner Didier Deschamps pour l'équipe de France en disant « J'ai les mecs lundi, je joue vendredi, je joue mardi, j'ai pas le temps de faire de mise en place, j'ai pas le temps de faire du travail tactique. » On visionne l'adversaire, on donne les points, attention, lui ça. On va jouer comme ça, on donne des vagues de considérations.
Là, il a affaire à des internationaux qui se côtoient régulièrement, qui jouent souvent ensemble. Voilà.
C'est ce qu'il expliquait qui était très intéressant, en disant pour la Coupe du Monde 2018, on a eu 1 mois de préparation. Pour 2022, on a eu 21 jours. On risque d'en avoir 15 pour celle en 2026, puisque le rassemblement, c'est le 2.
Là, il est vrai que
elle commence le 11.
Le timing est assez serré pour cette échéance.
Voilà. Et en plus, tu as le 2 à Clairefontaine à Paris, et tu commences le 11. Tu es aux États-Unis, il faut y être le 7 ou le 8 parce qu'ils demandent que tu sois là 4-5 jours avant.
Ah ouais, j'ai entendu
ça. Voilà, donc ça, c'est des trucs. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de travailler tes automatismes. Les automatismes, c'est les matchs de qualif, quoi.
Voilà. En l'occurrence, les joueurs de l'équipe de France, il n'y aura pas énormément de changements, ils se connaissent.
Voilà. C'est pour ça que gens te disent pourquoi ils ne tentent pas un tel, parce qu'il n'y a pas de match amicaux, tu n'as pas le temps de travailler, d'intégrer des nouveaux trucs, il faut que les mecs ils soient d'entrée opérationnels.
En ce qui nous concerne, il va falloir que nous le soyons, que nos joueurs le soient.
Exactement, parce que quand
sous la bienveillance de notre entraîneur.
Là, je regarde jusqu'à la prochaine trêve internationale qui se situe en octobre.
C'est ça, ouais.
On joue le 4 octobre à Metz et on rejoue le 18. Donc, il y a une trêve internationale où tu as quand même un paquet de gars qui vont être en équipe nationale.
C'est ça. On ne pourra pas, en l'occurrence, travailler avec eux.
Là, tu regardes l'OM, Højbjerg au Danemark, O'Reilly y sera aussi. Tu avais donc
Murillo au Panama,
Pavard avec Pavard, l'équipe de France, Murillo au Panama,
voilà, Aguerd avec le Maroc,
Rulli et Balerdi en Argentine, Medina s'il n'était pas blessé, il aurait été en Argentine. Tu te retrouves avec comme il s'appelle, le jeune belge, il a joué avec les espoirs belges,
Vermeuren.
Voilà. Tu as Ahmed Traoré Junior, il est international ivoirien. Gouiri, il était avec l'Algérie. Aguerd, il était avec le Maroc. Aubameyang, il était au Gabon.
Voilà. C'est ça, il va y avoir la CAN également qui va se disputer.
Voilà. Donc les mecs, ils ont les qualifs de la Coupe du Monde, ils ont la CAN. Tu vas avoir les mecs qui vont être très pris. Tu te retrouves avec la moitié de ton équipe, sans oublier, je regardais bêtement, Bacola, qui est le, celui qui avait fait le malaise à Rennes, là. Le jeune qui a 18 ans, enfin, qui va avoir 18
une
ans.
Une pépite à polir.
Voilà, il était en équipe de France et U18. Il a même marqué une jolie but sur coup franc. Et donc, il n'est pas à l'entraînement, il n'est pas à la commanderie.
Quoi. Également, des équipes nationales de jeunes. Voilà. Qui,
Là, de présent, il y avait donc Pechao et Medina, parce qu'ils reviennent de blessure. Kondogbia qui ne s'entraînait pas parce qu'il était blessé. Et puis, 3 ou 4 remplaçants. Et Greenwood qui n'est pas allé avec la Jamaïque parce que finalement il hésite un peu. Il semblerait que l'Angleterre.
Il faut encore appel de pied. C'est pas sûr pour la Jamaïque, pour lui encore.
C'est sûr que si tu choisis Angleterre ou Jamaïque, tu choisis plutôt l'Angleterre. Mais bon, voilà. Et donc tu te trouves avec une dizaine de bonhommes en comptant les jeunes de la réserve. Voilà. C'est compliqué pour travailler. Et donc, jusqu'au 5 octobre,
on peut parler des joueurs qui ont été qualifiés pour jouer en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe avec nous.
Et voilà. Et donc, tu te retrouves avec un match tous les 3-4 jours, pendant un peu plus d'un mois. Tu as 14 jours de coupure internationale et tu repars pareil jusqu'à fin novembre. Où tu as, je crois que c'est le 8 novembre qu'on s'arrête, parce qu'il y a les troisièmes... Les 5e et 6e matchs de qualif pour la Coupe du Monde.
Absolument.
Et tu reprends le 20 novembre et tu tires jusqu'à Noël.
Alors, les enchaînements avec les matchs internationaux, les matchs européens, il va y avoir également les matchs de championnat, bien entendu. Et avant que la Coupe de France entre et se mette de la partie.
Et ça, je remarquais, parce qu'on regardait le calendrier, on réfléchissait un peu. Quand tu n'as pas de match de Ligue des Champions, tu as même une semaine, le mercredi 29 octobre, où tu as OM-NG au Vélodrome. c'est une des semaines où tu n'as pas de match de Coupe d'Europe le mercredi. Et il y a une journée de Ligue 1.
Mais on est obligé de respecter un calendrier et de suivre ces matchs-là.
Donc tu joues le 25 octobre à Lens, tu joues le mercredi 22 au Sporting Portugal Lisbonne. Le samedi, tu vas à Lens. Le mercredi, tu reçois Angers. Le samedi, tu rejoues à Auxerre. Et le mercredi, tu joues l'Atalante au Vélodrome. Voilà, et tu termines en recevant Brest.
Le fameux retour de Bergame.
Tu reçois Bergame, c'est ton 4e match.
Ça sera le 5 novembre, me semble-t-il. Mercredi 5 novembre.
Tu auras fait, puisqu'on reçoit l'Ajax, on va à Madrid, on reçoit l'Ajax. On va au Sporting Lisbonne, on reçoit l'Atalante. Et après, on ira à Bruges contre le FC Bruges et on recevra Newcastle. Juste avant Noël, on reçoit Newcastle pour bien finir l'année. Et en début janvier, on aura Lyon.
Nous aurons aussi la visite de l'Union Saint-Gilloise à ce moment-là.
On va à l'Union Saint-Gilloise.
On va là-bas, en Belgique.
Et la visite, c'est Liverpool.
C'est la fameuse visite, c'est celle de Liverpool, tout à fait.
Fin janvier, c'est Liverpool. Et on termine la phase de poule de la Ligue des Champions avec Liverpool au Vélodrome. Et tout ça, tu as, et au milieu, il faudra caser aussi le trophée des champions qu'on n'a pas joué en août, avant le début du championnat, parce que PSG, ils étaient en vacances. Donc, et oui, parce qu'ils ont repris, ouais. Il aurait dû se jouer le week-end avant la reprise. Mmh. Donc la reprise, c'était le 15 août, tu aurais dû jouer le 8 août.
Eh oui. Mais avec toutes ces compétitions,
le 8 août, c'est eux, ils revenaient de congé. Ouais, voilà, ils n'avaient pas fait un entraînement. Quoi. Donc tu as reporté en janvier, où tu vas te retrouver, enfin c'est des trucs de, wow, de malade, et tu t'étonnes après qu'il y a des blessures.
Ben ouais. Mais voilà, donc c'est pas étonnant.
Ouais. Ça va être très compliqué, surtout dans l'optique, il va falloir travailler pour trouver les automatismes, mmh, pour trouver les associations.
Oui.
Et là, c'est sûr que quand tu joues tous les trois jours, tu n'as pratiquement pas l'entraînement. Quoi.
Non, mais les entraînements se feront, non pas, je dirais, à l'instar des matchs, mais se feront en jouant, c'est le
voilà,
cas de le dire.
Voilà, ça sera en jouant, ouais, ouais. Puisqu'on rappelle à nos auditeurs que quand tu as joué, tu as une journée de... Même si tu n'as pas de repos, tu viens à la commanderie faire des étirements, de la gym, des soins.
De retrouver justement tes partenaires.
Tu t'entraînes le deuxième jour et tu prépares le match sur lendemain. Parce que la veille du match, tu ne t'entraînes pas dur. Tu peux pas. C'est les entraînements de mise en situation, de mise en place.
Mais retrouver justement ses coéquipiers et rester de corps avec eux.
Ouais. Un travail de fond, ce que tu as fait en préparation,
ouais,
tu n'as pas. Voilà.
C'est évident.
Ça va être notre problème, et en espérant que ça ne nous pénalise pas trop.
Ouais.
Parce que
qu'on ne perde pas trop de points en route, parce que, au niveau du championnat, par exemple.
Voilà, un championnat comme en Ligue des Champions, les points perdus ne se rattrapent pas.
Ah, on est bien d'accord.
Voilà. Et en Ligue des Champions, on sait que les 8 premiers sont qualifiés d'office pour les 8e.
Ouais.
Du 9 au 24, tu es... Alors, du 9 au 16, tu es tête de série.
Ouais,
du
après, pour aller jusqu'au 24e...
Tu es pas tête de série, donc tu joues le match retour à l'extérieur. Mm-hmm. C'est les 16e de finale qu'ils appellent barrage, mais c'est les 16e de finale.
C'est le terme usité, barrage.
Et tu fais comme Brest l'année passée, tu te prends PSG en 16e de finale. Ouais. Tu es content, toi. Voilà, où tu te prends... Le Real Madrid, Manchester City.
Par exemple,
City,
même s'ils en ont fait.
Voilà.
Ils ont fait de belles choses.
Oui, parce que tu peux avoir une équipe qui est 9-10e.
Ouais.
Parce que, et que tu vas te les prendre et tu te fais exploser.
Il ne faut pas oublier que c'est la Ligue des Champions et qu'on va retrouver justement des équipes de très très haut niveau.
Le niveau, pour l'avoir suivi, c'est. Ouais. Parce que je suis abonné à Canal+, ça me permet de suivre les matchs. pour avoir vu les matchs et 8e, les quarts et tout, c'est costaud. Hein. Méchamment costaud. Et le niveau, il est un peu... On parlait tout à l'heure en début d'émission de nos féminines qui se sont pris Lyon pour la première journée. Tu joues Lyon, tu joues une équipe Ligue des Champions au niveau. Là, tu vas jouer les équipes lourdes. Et c'est compliqué. Et si tu perds des points chez toi ou à l'extérieur, parce que tu vas jouer Porto, Lisbonne, le Sporting, l'Union Saint-Gilloise, Bruges, il ne faudrait pas des points.
Absolument, il ne faut pas négliger, je veux dire, ces possibilités où on se dit que ce sont des matchs gagnables. Mais matchs, il faut prendre
des points à l'extérieur, parce qu'à la maison, Newcastle, Liverpool, même l'Atalante Bergame, même l'Ajax, c'est pas des cadeaux.
Oh non.
C'est pas des cadeaux. Et tu commences à Madrid, je te dis, tu n'as rien à perdre. Mais les trois autres matchs extérieurs, il faudrait essayer de gratter un peu.
Ouais, il est évident que pour cette première, face à Madrid, justement, il ne faudrait pas que l'on tombe dans un catastrophisme aigu et qu'on se prenne une rouste qui nous anéantisse moralement. Quoi.
Voilà, il ne faut pas. Voilà. Il faut pas, parce que comme on parlait des féminines, elles ont perdu 3-1 à Lyon, c'est honorable.
Tout à fait honorable.
Tu n'as rien à dire.
Un comportement digne.
Tu n'as pas été ridicule, tu as marqué un but, tu as fait un bon match. Tu t'en prends 5, là. Voilà. Je veux dire, comme je lisais dans l'équipe matin, il y a un problème en Turquie, parce qu'ils ont pris 6-0 chez eux contre l'Espagne. Moi, j'ai vu le match sur l'équipe.
Malgré les parades du gardien turc.
Malgré le gardien qui a fait une super match, qui leur a enlevé 2-3 buts tout faits, ils en prennent 6-0. Pétard. Les mecs, ils disaient que le réveil est difficile, ça fait mal. Ça fait mal, le mental.
Même si on s'y attend, probablement.
Oui, oui, tu te dis, on va perdre, c'est l'Espagne, cela, mais... c'est peut-être la meilleure équipe du monde.
Ça te met un petit coup peuré. Ouais.
6-0, voilà, 3-0 ouais. à la mi-temps, 6-0 à la fin du match, tu t'es fait bouffer. Ça fait mal, quoi.
Donc voilà. Le mental va être évidemment
un facteur important.
Absolument.
Et il faudra serrer les rangs. Et donc, ça va faire, pour Roberto De Zerbi, ça va faire du travail compliqué. Parce que la gestion humaine, la gestion des équilibres...
Ça part de là également.
C'est ça, le boulot le plus dur de l'entraîneur, c'est ça. Équilibrer les personnes avec un vestiaire qu'on sait déstabilisé par l'affaire Rabiot.
Il y a de quoi.
Voilà, parce que les mecs le connaissaient, il aimait bien. Il y a même plusieurs joueurs qui sont venus dire « On va jouer la Ligue des Champions, il serait mieux de garder Adrien. »
Oui, voilà. Mais ça peut, être un atout également. Ce bouleversement, ce mot revient assez logiquement dans la conversation, mais il va bien falloir trouver une adaptation à cela que ça peut être quelque chose de positif.
Moi, je suis persuadé que autant d'achats et de prêts en fin de mercato, c'est pour renouveler l'équipe.
Déjà.
Pour vider les têtes avec des mecs qui n'étaient pas là, qui n'ont pas, pas vécu ça, qui parlent d'autre chose, pour éviter de ressasser.
Voilà, d'où le côté positif qui pourrait venir dans mon propos.
Voilà, d'où l'importance que Rabiot s'en aille, comme Paris avec Donnarumma.
Par exemple.
Où finalement, ils l'ont transféré à Man City, parce que tu ne peux pas laisser Chevalier titulaire avec l'autre qui s'entraîne en réserve.
Dans qui le va jouer la Ligue des Champions, qui va jouer le championnat.
Voilà, c'est compliqué. Ah oui. Là, il valait mieux qu'ils partent. Et tu as pris plusieurs nouvelles têtes pour espérer vider les cerveaux.
Mais, je suis assez d'accord.
Voilà. En espérant que si tu arrives rapidement à trouver un équilibre, ça te donne un coup de boost. Ça a l'effet inverse.
C'est-à-dire évidemment, justement, la chose recherchée.
Ça te redynamise, ça crée de la concurrence, un Balerdi. C'est un garçon qu'on connaît depuis 6 ans à Marseille, ou 5 ans.
Oui,
c'est un garçon qui a du caractère, qui a une personnalité assez forte. Le fait d'avoir raté les matchs, d'être critiqué, ça peut le booster et l'amener. N'oublions pas qu'il joue une place à la Coupe du Monde à la fin de la saison.
Aussi, voilà, la Coupe du Monde, son approche pour
c'est des
tout
trucs,
une chaque...
pour tous ces joueurs. Ouais. On parlait du Brésilien Peixão. Il se joue le poste de remplaçant de Vinicius pour le Brésil à la Coupe du Monde. Parce que Vinicius est hors concours. Le remplaçant, il y a plusieurs candidats. Et lui, il postule, il espère. Il espère, ça passe par des gros matchs en Ligue des Champions.
En tout cas, nous l'avons recruté en ce sens, du joueur...
Du mec qui va avoir envie de briller, parce que Ancelotti, il est peut-être parti au Brésil, mais il a quand même les antennes en Europe. Et la Ligue des Champions, il va la regarder. Il sait ce que c'est. Tu flambes, tu fais des bons matchs, tu mets des buts. Tu as plein de joueurs qui jouent. Une place, les Danois, O'Reilly, jouent une place en sélection.
L'ambition de chacun de ces joueurs, de ces internationaux, plus que potentiel, en puissance, et justement, ils veulent justement conserver ou récupérer une place de titulaire dans leurs équipes nationales respectives.
Voilà, et Gouiri et les autres, Aguerd, le Maroc est déjà qualifié, l'Algérie, il leur manque un point. En deux matchs,
ça devrait
le faire. Ils n'ont pas gagné hier soir, ils ont fait 0-0.
Ouais, j'ai vu ça.
Mais bon, ils auraient gagné, ils auraient été qualifiés. Enfin, ils vont sûrement y aller. Tu joues une place en Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, ce n'est pas tous les ans, c'est compliqué, tu n'es pas sûr d'y être. C'est un objectif énorme.
Pour les Africains, il y a beaucoup de compétitions qui se jugulent là, de la Coupe d'Afrique des Nations à la préparation d'une Coupe du Monde éventuelle pour la plupart des équipes.
Et les mecs, ils vont avoir l'écrou. Espérons. Mais en sachant que cette histoire nous fait beaucoup de tort parce que on repart de zéro. Et on verra lundi ou mardi, je ne sais pas quand c'est qu'on fera, on débriefera OM Lorient, on verra comment c'est passé, sachant que OM Lorient, quand même, j'espère.
Reste mesuré dans notre discours, mais on est confiant.
Quand même, oui, quand ouais. même. Au métier, à l'expérience, tu devrais.
Patrick, j'ai confiance en ta confiance.
Voilà. Mais après, ça sera plus compliqué. Oui. Parce que le...
Ah, l'enchaînement va être redoutable.
La semaine d'après, on aura reçu un certain pari.
On se répète.
Et
oui.
donc, voilà, ça sera une autre paire de ouais. matchs. Voilà.
Nonobstant, la Ligue des Champions et le oui. démarrage.
Oui, mais je pense que le démarrage à Madrid.
Voilà.
C'est, voilà, c'est pour démarrer, mais bon,
on va dire
tu,
ça,
tu, ouais. tu as prévu zéro point, ouais. tu, le seul truc c'est pas prendre une valise, ça marquerait mm-hmm. mal, et tu te ferais chambrer, il y en a qui seraient très contents de t'assassiner sur les radios ou les télés, mais voilà, donc...
Là on part sur la construction d'une cohésion collective.
Non mais je regardais, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais
ouais.
je regardais un compte rendu de la première journée de la deuxième journée de championnat. Paris mmh. recevait Angers.
Ouais.
Et j'ai trouvé un con à l'équipe.
Oui, je m'en souviens.
Oui, Angers, ils n'ont même pas essayé, ils ont joué derrière. Budget annuel d'Angers, 25,
ouais, ouais, 25 millions
d'euros. Millions,
on va comparer avec le Paris Saint-Germain.
PSG,
ouais.
900 millions. Quoi, non, mais... 25 millions, c'est même pas. C'est le salaire annuel de. De deux joueurs et même
ouais.
pas le, les
Angers,
mieux payés.
Angers, me semble-t-il,
quoi.
Perd 1-0, je crois que c'est
ouais,
ça.
Oui, ils perdent 1-0.
Mais alors, on se dit, voilà. mais pourquoi ils n'ont pas résisté?
Le
pourquoi
mec,
ils n'ont
pas, pas essayé d'attaquer, non, mais... de prendre... Et qu'est-ce que tu veux attaquer?
Tu veux essayer quoi?
Voilà. leur meilleur joueur, leur meilleur buteur, ils l'ont vendu parce qu'ils ont besoin de oui. ça pour boucler le budget, le pôle. Ils l'ont vendu à Rennes.
C'est ça.
Parce que s'ils n'avaient pas vendu 15 millions, je crois, ben, le 1,5 million de bonus... S'ils ne le vendent pas, ils sont patients de finir l'année.
C'est le souci voilà. De base de la plupart
voilà,
des clubs.
Des clubs, voilà. Mais Lyon, ils ont vendu Miko Tadze alors voilà. qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Parce que
d'autres
sinon,
affaires financières
pas voilà.
par rapport justement à un président.
Oui, voilà. Escroc américain qui est parti.
Voilà, je voulais le dire en ce sens également.
Voilà, hein. qu'ils ont viré. Et donc, je veux dire, c'est, tu ne peux pas comparer. Donc, quand les mecs, des fois, ils te tiennent des propos. Sois réaliste, tu peux pas demander.
Comme quoi la gestion financière doit voilà. être faite justement et réalisée par mais... des professionnels qui savent de quoi ils parlent et savent ce qu'ils font.
Voilà, mais c'est vrai que le problème des supporters, tu perds.
Ouais.
Tu perds avec l'honneur. Voilà, tu as perdu. Si tu as perdu contre plus fort, c'est pas grave.
Bien sûr.
Tu t'es pas pris une valise. Mmh. Et c'est sûr que ça peut poser problème s'il venait avant des difficultés.
Ouais.
Parce qu'on connaît Marseille, malheureusement.
Malgré ce, j'attends une cohésion et justement de cette équipe, justement de l'ensemble des joueurs qui vont se côtoyer et se préparer à cela.
C'est pour ouais. ça que moi je pense, enfin, pour en avoir parlé avec des copains, des vieux supporters, des vieux requins, que 29 ans, Pavard, Aguerre, ouais. 31 ans, Emerson...
On a des hommes d'expérience.
Voilà, tu as pris, même Aubameyang, tu as pris des mecs de métier, d'expérience, qui ne vont pas trembler. On l'a vu Aubameyang il y a 2 ans, l'équipe ne marchait pas. Mm-hmm. Il avait eu du mal à commencer, mais il a flambé, il a marqué, il t'a porté.
Ça va impulser voilà. justement cette envie collective.
Ce n'est pas 3 sifflets qui vont le faire trembler.
Absolument,
voilà.
ça ne va pas les déstabiliser pour une sou.
Et je pense que c'est pour ça qu'il faut comprendre le recrutement de vieux tueurs.
Oui.
Parce que tu vas avoir besoin de mecs comme ça.
Optimiser justement, nous en sommes là et les joueurs sont là. Et comme tu dis si bien, profiter et optimiser ces recrues et leur potentiel
voilà,
que nous connaissons déjà.
C'est sûr qu'un Pavard, l'Inter Milan, c'est chaud. Hein.
Oh, oui.
C'est un club, voilà, c'est rude. Même le Bayern, hein,
il
voilà, n'y a pas de marge.
Dire, voilà.
Voilà, c'est les mecs, ils ont le cuir tanné, quoi. Enfin, espérons-le.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Et puis, je crois qu'il va être l'heure de rendre l'antenne.
Absolument, ben, on la garderait volontiers,
oui,
mais il est vrai qu'on va peut-être laisser, je dirais, planer le mystère, non pas de réalisation concrète pour l'Olympique de Marseille. Donc, ça va le faire. On y croit de tout cœur. On va commencer par Lorient. Donc,
et on en parlera la semaine prochaine. On
voilà,
débriefera
pour
Lorient.
La quatrième journée,
voilà,
vendredi 12. Ouais.
Et sinon, bon, vous ne m'entendrez plus parce que je me serais pas nu. Mais
non,
bon.
Patrick.
J'espère qu'on n'en arrivera pas là.
On n'en arrivera pas là.
Je plaisante, évidemment. Voilà.
Tu pendras 2-3 écharpes autour
voilà,
du studio.
Ouais, voilà,
allez l'OM, toujours.
Allez l'OM.
Patrick, merci. Merci à toutes
quoi.
Et à tous.
Et à
bonne
bientôt.
Continuation.
Au revoir.
Au revoir.